de parallèle peut-être entre les forêts modèles dont tu nous parlais, Chimère, et un endroit comme la Z, à notre délan de ailleurs, quand dans la forme d'un territoire tenu et habité par ses habitants.
Bon, je sais pas vraiment, je connais la ZAD, je viens de découvrir ça. Donc j'ai même posé la question à côté parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà. Mais c'est intéressant de savoir ça. Moi, à mon avis, il y a quand même beaucoup de formes qui existent. Quand tu parlais des servitudes, j'ai pensé un peu à ce que les Américains ont fait, ce qui fait différent. Parce que je vois en Afrique, on a ce qu'on appelle les concessions de conservation qui sont basées sur l'idée de servitude. Aux États-Unis, on a les marchés de droits, les Purchase of Development Rights, ils ont toute une série de. Ils ont deux modèles dans lesquels ils échangent des territoires contre. Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la discussion, mais c'est assez intéressant puisque sur la base des comtés, il y a une. On est sur une zone, c'est ça qui a permis un peu de sauver un peu les grands espaces de l'Ouest. Parce qu'en fait, la terre, souvent, elle change d'attribution lorsque le marché. La valeur immobilière des terres, pour l'ampleur, je suis en train de voir ça au Cameroun, il y a des zones qui étaient protégées par la tenue en chasse, ils sont en train de partir. Les États-Unis, ils sont arrivés à faire ça en vendant, en utilisant la notion de en fait, la notion anglo-saxonne, hein, de droit, des différents types de droits, des paquets de droits, et ils ont pu, à partir de là, développer ce modèle-là. Alors, on va peut-être en discuter, mais. Ce qui me frappe, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas du tout ça qui est fait. Et le principe, lorsqu'il est appliqué à l'ensemble de la dynamique du carbone, des marchés du carbone, c'est encore autre chose. Voilà. Alors, je trouve qu'aux États-Unis, il aurait eu un problème, moi, qui m'intrigue, parce que mon problème, c'est un peu là, comment on préserve les enjeux de la tenure communautaire, les communs dans les zones africaines, mais au contraire, c'est des notions très agressives de construction, de protection qui prévalent. Aux États-Unis, sur une base de marché capitaliste, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui font que les gens s'installent dans les endroits où à côté ils vont aller visiter les grands canyons, ils vont faire plein de choses, hein, parce que le droit de construire des garages, le droit de construire des immeubles, et on ne peut le faire qu'en achetant le droit là-bas à faire la même chose, ce qui fait que les gens vendent le droit virtuel à construire. Alors les forêts modèles, c'est différent, c'est une autre construction. Et moi je crois au pluralisme des formes, je ne pense pas qu'on va passer d'un monde à l'autre, je pense qu'il va y avoir. Il faut qu'on sache que changer de monde, ce n'est pas facile. Ça va être très difficile. Et qu'il faut inventer, il faut utiliser toutes les. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Il faut utiliser toutes les opportunités pour créer de la différence, créer de la liberté, des façons, des libertés de gérer le monde, de faire des choses, d'inventer, d'innover, de faire des choses. À mon avis, c'est un peu dans ce sens que je verrais la relation.
Et peut-être est-ce vous entendre sur l'idée de propriété qui a un peu été reprise dans les différentes interventions d'une propriété plus comme donc cette idée d'habiter, d'usage que d'un rapport de domination. Est-ce que c'est une voie en tout cas pour vous qui peut être intéressante pour apporter des solutions, et est-ce que par exemple elle est prise en compte la notion de la propriété de par exemple la semaine prochaine durant ce sommet, est-ce qu'il y a des discussions sur ce sujet?
Non, mais je suis sûr que voilà, j'ai des choses à dire là-dessus, mais est-ce que moi je pense que c'est simplement là, c'est un peu dans le même sens pour moi la propriété. Quand je parle des paquets de droits, c'est une politique qui est différente, très différente de celle que vous avez. Lorsque je regarde la politique sur laquelle j'ai travaillé, qui est la tenue enchâssée, qui est l'enchâssement des droits privés dans les communs et du commun, dans la propriété collective, la propriété collective, dans les institutions matrimoniales, qui font que c'est très difficile à détricoter, parce que c'est enchâssé. Parce que moi quand j'ouvre un champ de maïs ou de forêt, fondamentalement, je l'ouvre à l'intérieur des communs. Et je l'utilise, j'ai le droit d'utiliser tant qu'il y a la preuve, la visuelle, visible, physique, de mon travail. Donc l'appropriation se fait par l'investissement du travail dans la nature. Alors lorsqu'on regarde les évolutions du droit, et même les discussions avec Carol Rose et tout ça sur la propriété aux États-Unis, on se rend compte que y a ces notions-là sont présentes, parce que c'est des éléments de la justice naturelle, qui ont été développés différemment par différents peuples. moi. Donc je crois qu'il y a différents types de propriétés, d'appropriation, d'utilisation de la nature qui sont accessibles et qu'il faut utiliser. Moi, ce que je rejette, c'est la façon un peu hégémonique, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un peu toute cette idée d'imposer une forme de droit qui prend le pas sur les autres et qui a causé beaucoup de dégâts. Je crois que c'est là où ça me pose problème. Parce qu'un des éléments des droits, du droit communautaire, des communs enchâssés, c'est cette capacité à redistribuer la richesse. Parce que le fondement de toute la tribu, on a essayé tout, il y a eu tellement de machins de la Banque mondiale, ils ont essayé d'enlever ça, il y a eu tellement de réformes foncières. Depuis l'avènement du colonialisme, il y a un travail systématique de destruction des formes d'organisation qui sont basées sur l'universalité de l'accès à la terre. Si tout le monde a le droit, tant que tu es capable de transformer le milieu, de créer, tu as accès. Et c'est basé sur des notions de solidarité intergénérationnelle. Par exemple, dans nos traditions, la terre appartient aux morts, aux vivants et aux non-nés. C'est pour ça qu'on a le principe d'exo-inaliénabilité de la terre. C'est-à-dire, tu ne veux pas la vendre en dehors du groupe. Ça, c'est les éléments. On ne peut pas trouver mieux pour conserver, pour gérer l'équilibre. Ça a été débile. Donc, je pense que c'est... On ne va pas revenir là-dessus complètement. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le net, avec les nouveaux communs, les communs collaboratifs, toute cette bataille qu'il y a autour de quel type de système on va créer, de digitalisation, c'est une grosse guerre, c'est une grosse bataille qui va décider beaucoup de choses. La 5G va venir, elle va bousculer énormément de choses. Toutes ces questions-là, à mon avis, on doit, la question de la propriété, même la valeur se repose aujourd'hui. Comment on doit repenser la valeur avec la possibilité qu'on a sur le net de créer des choses et de se désapproprier sans qu'il y ait un prix à ces choses-là. Et à côté de ça, le fait qu'il y a aussi un développement extraordinaire de la capacité de contrôle que les gros ont sur le monde à travers les nouveaux instruments qui sont disponibles. Donc moi, je pense que c'est un peu ça.
Il est trop stylé. C'est trop bien. Ah, il est en classe.
Mon voisin n'avait jamais entendu parler de la ZAD et moi, jamais des forêts modèles, donc c'est difficile. Il faut préciser un petit peu la question si on veut faire un lien.
Non, mais après, moi, je connais pas très bien les forêts modèles, mais c'était peut-être c'est en écoutant Chimère parler de laisser un territoire, en tout cas, à ses habitants, de créer des premières règles, en tout cas, que ce soit pas des mécanismes importés de l'extérieur qui gèrent ces forêts. Ça semble être une alternative, donc je me posais un peu la question, mais effectivement, moi non plus, ne connaissant pas, je suis déjà allée à Zelle, je suis jamais allée dans une forêt modèle. Je ne connais pas très bien le principe, mais je me posais la question.
Décidément, je suis toujours d'accord avec lui. Non, je crois que quand on lit les travaux sur les communs, etc., souvent il y a le bon modèle, le plus pur, et la ZAD pourra en être un, qui permet de cracher sur tous les autres. Oh, je crois que... mais ça, c'était surtout les... Enfin, c'est le souvenir de la militance. Donc, je crois que cette idée que que de toute façon, il y a quelque chose en commun, c'est la résistance à ces mécanismes économiques pour qui les servitudes, ça doit sauter parce que ça diminue la liberté du propriétaire. Enfin. Donc un monde où les servitudes seraient partout, les propriétaires pourraient faire des choses, et c'est très très ligoté. Ça pourrait être dénoncé par ceux, mais non, on ne veut pas de propriétaire du tout. Oui, peut-être. Mais c'est deux possibilités intéressantes et qui peuvent, comment dirais-je, et donc cette... appréciation des possibilités, c'est une forme de sociodiversité, effectivement. Si Descolades dit toute relation par défaut est une relation sociale, eh bien, l'idée d'apprécier et les dangers et les limites et les forces de chaque proposition est intéressante. Et l'alliance, c'est, on sait qu'on a un adversaire commun. Et donc, comment dirais-je, on aide les autres là où il est faible face à l'adversaire. Chacun est faible, a un côté faible. Mais on les aide. Par exemple, c'est vrai que la ZAD n'en a pas grand-chose à faire du droit, sauf que ça les intéresse et ils aiment bien quand les juristes viennent leur donner des armes. Donc il y a des alliances comme ça, me semble-t-il, qui font partie de cette culture, je ne dirais pas de la diversité, parce que la diversité c'est un peu comptable. Attention, telle loi est en train de cumuler avec telle autre qui est une espèce. Je connais des gens qui veulent protéger une espèce de droit et qui tuent l'autre. Il va y avoir mélange génétique et perte de diversité. Donc la diversité, c'est un peu comptable pour moi vraiment et un peu statique. Par contre, la pluralité active, chacun allait tenter de développer quelque chose et à ce moment-là, quand les forces et les faiblesses et les besoins par rapport à d'autres, sont bien caractérisés. Les relations, quelles sont les relations entre nous? Je crois que c'est une politique des politiques qui est très importante.
Je vous remercie à tous pour vos interventions. C'était très intéressant, enrichissant. Moi, j'avais une question que je me posais sur la ZAD et d'un point de vue juridique. Alors, je trouvais, par exemple, ces perspectives intéressantes. Sur le côté juridique, j'aurais un peu plus vulgarisé. Peut-être c'était un peu difficile pour les non-juristes. Peut-être ça gagnerait en popularité à essayer de faire un lien avec des questions que des personnes se posent, qui ne sont pas forcément juristes. Mais il y a une notion néanmoins juridique qui apparaît, que vous n'avez pas évoquée, qui concerne aussi la ZAD, c'est l'écocide. Il y a un réseau européen pour le terme d'écocide, qui veut dire la destruction des écosystèmes. Bon, ce n'est pas forcément très défini, c'est un réseau à la fois de juristes, militants, très actifs. Ça pourrait s'appliquer à la ZAD. Alors je me demandais, à Notre-Dame-des-Landes, on en a parlé, Notre-Dame-des-Landes, etc. C'est-à-dire assigner en justice des chefs d'entreprise ou des dirigeants parce que ce qu'ils font leur entreprise, etc., ils sont personnellement responsables de... Alors au Congo aussi, ça peut s'appliquer, évidemment. Ils seraient personnellement responsables de la destruction d'écosystèmes, etc. Donc comment ça s'articule, cette notion-là, avec ce que vous avez dit sur les servitudes, qui étaient beaucoup dérivées du droit ancien. Là, c'est l'innovation juridique.
Je vous remercie pour votre question. Alors, je vais peut-être commencer par essayer de vulgariser le propos, mais d'abord, je réponds sur l'écocide pour vous dire que je ne travaille pas dessus. Les juristes qui travaillent dessus, c'est, je dirais, Laurent Néret, le professeur de droit Laurent Néret, et puis l'écrivaine et journaliste Valérie Cabanne, si je ne me trompe pas, avec des visions assez différentes de la notion d'écocide. L'une ayant une vision plus générale et l'autre refermant l'ouverture de cette notion, mais je ne pourrais pas vous faire l'exposer, je n'ai pas travaillé moi sur cette notion. Donc je ne crois pas, enfin, comme ça là, je ne vois pas de lien direct entre la notion d'écocide, surtout qu'elle est portée plutôt au niveau du droit international de l'environnement, et puis les servitudes qui sont vraiment une manière d'appréhender le droit à l'échelle locale. Donc il y aurait un travail à faire, et là, d'emblée, je ne suis pas en mesure de tisser le lien. Alors pour familiariser en un mot, les servitudes, de quoi je vous parle quand je vous parle des servitudes, je ne parle pas, je parle tout simplement de ce dont Chimène traite lorsqu'il parle de propriété entrelacée, simultanée, enchâssée, voilà. Moi je parle plutôt de propriété simultanée, juxtaposée, mais ce sont les mêmes termes. Le système des propriétés simultanées, c'est ou enchâssées ou enchevêtrées, bref, peu importe, c'est un système que l'on dit avoir disparu avec la Révolution française, qui aurait substitué à ces propriétés simultanées, donc des fonds de terre enchâssés les uns dans les autres, asservis les uns aux autres, d'où la notion de servitude, avec donc, la Révolution française et la rédaction du Code civil en 1804, on nous dit que cette propriété simultanée aurait disparu. Or, si vous ouvrez le code civil, vous allez vous apercevoir qu'il est encore environ 60 dispositions qui intéressent le droit des servitudes et donc qui permettraient de retisser des liens entre les fonds de terre, entre des choses foncières, mais aussi entre des fonds de terre et des êtres humains, ou aussi des fonds de terre et des êtres animaux, végétaux et minéraux. Évidemment, la question que ça pose, c'est est-ce que ça veut dire retourner à une société féodale où des êtres humains seraient inféodés à la terre via éventuellement les seigneurs auxquels ils seraient liés. Donc c'est évidemment une question centrale. Mais il faut bien voir que ce type de servitude personnelle-là a disparu. Celles où on était asservi à perpétuité à la terre, ce sont des choses qui ont disparu. Et s'agissant des servitudes réelles, c'est-à-dire des relations juridiques entre des fonds de terre, ce qu'on appelle des héritages dans le code civil, il se trouve qu'il y a une disposition qui précise qu'il n'y a pas de prééminence possible entre un fonds et un autre. Autrement dit, autant on a libéré les êtres humains que l'on assimilait à leur aux personnes, et on a, sur le terrain foncier, fait la même chose. On a libéré les fonds de terre. On a empêché l'asservissement de terre vis-à-vis des autres, quand bien même les servitudes, les relations juridiques entre les choses demeurent possibles. Et c'est cela que je propose de réactiver. Et il me semble que pour les ZAD, ça pourrait aussi les intéresser. Évidemment, ils sont contre le droit, mais c'est parce qu'ils ont une approche totalement légaliste du droit. Et si on dit le droit, c'est autre chose, ça peut être autre chose que du droit étatiste ou du droit écrit, qu'il y ait du droit chez les peuples autochtones et les communautés locales, là, peut-être que ça peut les intéresser.
Personne n'est dit qu'on est contre le droit.
Si, c'est des zones de non-droit ou libérées du droit.
Non, non.
Ce serait plutôt des zones qui essaient justement de construire un autre droit. C'est ce qui s'était passé avec toutes les. Enfin, c'est COP, c'est ça, les conventions d'occupation, non, COT temporaire, quelque chose comme ça, où justement il y avait l'idée de chaque habitant de la ZAD qui élevait des moutons, qui avait tel champ d'agriculture, essayait de se lier à celui qui a des ruches, etc. Donc de lier les différentes autorisations entre elles, étant donné qu'on les contraignait à déposer en un nom, en tant qu'un individu, un projet agricole ou d'habitation. Donc c'est, enfin, je sais pas, moi je le verrais peut-être plus comme une forme d'innovation juridique.
Oui, non, j'imagine, mais c'est deux choses complètement différentes. Il y a la question de comment on dresse une façade légale entre la ZAD et l'État pour pouvoir continuer à avoir un certain nombre d'interactions originales entre humains et avec le lieu, mais il y a absolument pas d'histoire de contre le droit, c'est utiliser le droit. Là, ce qui est en train de se passer sur la ZAD depuis des mois, c'est une espèce de guerre administrative à laquelle je pige rien, mais qui est complètement fascinante dans son niveau de technicité. Et en l'occurrence, il y a toute une partie des habitants de la ZAD qui sont devenus des spécialistes qui passent des nuits sur des textes de droit foncier pour comprendre quel montage administratif va leur permettre au mieux de dresser une façade qui les protège. Et c'est extrêmement technique, et en même temps la question de fond est très très simple, c'est-à-dire qu'on leur impose en l'occurrence les règles économiques qui sont en vigueur ailleurs, c'est-à-dire on demande aux agriculteurs de faire des bilans prévisionnels chiffrés sur 15 ans pour décrire leur activité, donc de rechiffrer, de chiffrer la forêt, de faire des... Et donc de re-extraire la sphère économique de leurs relations sociales, de re-rendre tout chiffrable. Et donc toute la question la question sur place, au-delà de toute cette technicité, c'est quels outils légaux existants on doit employer pour pouvoir continuer au mieux à interagir, à avoir toutes les relations de solidarité, les liens affectifs qui sont tissés tout en faisant semblant de se plier aux règles. Donc ça, c'est une relation au droit. Mais sinon, indépendamment de ça, il n'y a pas du tout de contre. C'est simplement, effectivement, d'autres droits. C'est le droit d'usage, les communs, la justice communautaire. Enfin, c'est pas du tout l'expression non-droit. Elle vient seulement d'État. Personne ne dirait sur place. Enfin, c'est pour ça que je ne comprends pas contre l'expression contre le droit.
Mais en fait, on est... Oui. Donc, en fait, on est d'accord, il y a plusieurs manières d'aborder le droit, un droit institutionnel, étatique, et d'autres formes de droit qui sont en train de se réinventer et qui pourraient éventuellement puiser dans l'histoire médiévale ou dans l'anthropologie juridique également.
Et dans les communautés ailleurs dans le monde, des communautés andines notamment, de comment est gérée la justice communautaire par exemple, c'est des questions qui les intéressent beaucoup, et qu'effectivement il y a tout un tas de règles à réinventer en dehors, mais disons, en tout cas oui, le problème immédiat, c'est celui de... C'est le chacun est dans un espèce de jeu administratif, le conseil départemental pour les épuiser et les démolir, psychologiquement, en gros, pour réinjecter de l'économie partout, et les zadistes pour submerger en retour le conseil départemental sous des montages administratifs qui leur feront gagner du temps et qui leur permettront surtout de continuer à faire ce qu'ils font. C'est la... En tout cas, là, c'est assez fascinant de voir le degré de technicité que les débats. Le conseil départemental de Loire-Atlantique est complètement submergé. Ils ont dû ajourner toutes leurs autres activités. L'évaluation de toutes les fermes qu'ils avaient prévu de faire cette année sont ajournées. Ils ont dû embaucher des nouveaux gens pour traiter la ZAD, tant les outils juridiques déployés par les ZADIS les ont surpris dans leur efficacité.
Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes optimiste ? Parce que quand même, je pense que l'histoire de... Enfin, ce qui se passe ici, c'est que vous avez abouti à... Enfin, l'État s'est construit autour du processus, encore d'enchâssement, de la société à l'intérieur de l'économie. C'est-à-dire, ça s'est renversé. Les relations sociales, avant, contenaient l'économie. L'économie... Parce qu'un relation avec quelqu'un, c'était des relations amicales, c'était des relations, les relations sociales vivaient dans la relation économique. Mais ce qui s'est passé avec le capitalisme, et ça s'est surtout développé ici, c'est que progressivement, l'économie a pris part sur les relations sociales, et les relations sociales ont été à l'intérieur de l'économie, enchâssées dans l'économie. Et Polanyi l'explique très bien, sa fille également, qui prolonge un peu ses analyses, qui explique très bien comment ça s'est passé. Moi, quand je regarde la façon dans la société française, enfin, comme ça s'appelle, réagit aux situations, c'est toujours à travers la loi. Vous avez un rapport à la loi. Moi, quand je suis arrivé là tout de suite, enfin, on m'a demandé, Claire m'a demandé un CERAT, un numéro d'impôt, enfin, quelque chose que vous connaissez très bien, moi, je ne connais pas ça. On a non seulement, parce qu'en réalité, le pluralisme légal, c'est la règle en dehors d'ici.
Dans le monde, quoi.
Région, enfin, comme
partout.
C'est le pluralisme légal. C'est-à-dire qu'on vit constamment avec différents régimes de droit. On vit constamment avec différents systèmes de valeurs. On vit constamment avec différentes manières de gérer les situations. Et ça donne une flexibilité, une plasticité à la manière dont on aborde les problèmes. C'est vrai que dans l'ensemble, ce qui pèse vraiment sur ces sociétés, c'est le fait que le modèle de construction, c'est le même modèle qu'ici. Elles ont du mal à rentrer dedans. Et donc, d'autres formes coexistent. Et cette coexistence est un atout, même si les Africains ne s'en rendent pas compte la plupart du temps. C'est un gros atout. Parce que quand on voit un peu le truc, moi je me dis, comment les gens vont sortir de cette phénoménale bureaucratie qui est vraiment, qui vit à l'intérieur de la manière dont les gens discutent de droit. C'est à la limite, c'est comme si on ne peut rien faire si on n'a pas modifié le système de droit formel. C'est une question, je me demande. Comment vous voyez ça? Parce qu'à force, moi, de vivre ailleurs, je voilà.
Non, mais deux questions aussi. Après, je vais répondre.
Alors, j'ai une question pour Alessandro. Est-ce que tu as des sources de sociologues ou d'anthropologues, je suis là. Qui ont fait leur terrain à Notre-Dame-des-Landes ou dans une autre ZAD et qui se sont concentrés justement sur ce que tu décris, sur ce rapport au monde qui serait basé sur une effacement de la séparation entre nature et culture.
Comme ça, j'ai pas de référence. Plein de gens l'évoquent et il y a des montagnes de travaux de sociologues sur les ZAD, mais j'ai pas. Peut-être Isabelle a une référence qui vient en tête. C'est évoqué dans Où atterrir de Bruno Latour, c'est de là que ça vient, mais par contre, une étude vraiment qui suit un protocole sociologique là-dessus, je pense pas que ça existe, peut-être que ça existe, mais je connais pas.
J'ai l'impression qu'il y a un petit problème là, c'est-à-dire qu'un sociologue qui viendrait avec des instruments de sociologie serait pas très bienvenu. Il poserait des questions idiotes et il se ferait sortir.
C'est un peu ce que j'ai fait en arrivant, on se fait vite happer par la ZAD, et du coup, ces questions deviennent complètement. C'est ça l'expérience de l'arrivée sur la ZAD, c'est qu'en une demi-journée, toutes les questions théoriques avec lesquelles je venais se sont dissoutes et ça sont devenues une façon de voir en acte beaucoup plus que. C'est effectivement extrêmement complexe de garder une distance quand on est là-bas. Un anthropologue Givaro qui serait suffisamment peu touché pour garder cette distance-là. En tout cas, quand on vient du même monde, on est immédiatement happé par le.
Les questions qui se posent sont trop pratiques. Par exemple, comment couper le bois, est-ce qu'on emploie des scies ou est-ce qu'on emploie, etc., pour que la notion de nature intervienne.
Ça, c'est qu'on se demande plus. Il n'y a pas de notion de service écologique, il n'y a plus non plus dans les discussions. On ne pourra jamais dire ça relève du social, ça relève de l'environnemental. Les deux se retrouvent complètement mêlés, c'est juste on vit ici et avec quel genre de voisins, quel genre d'interaction on veut continuer à avoir, avec qui, en intégrant le avec qui, tant des voisins humains que non humains. Mais une fois qu'on défait le rapport utilitariste, le social et l'environnemental se retrouvent mêlés l'un dans l'autre.
Je trouve très intéressant chez les peuples premiers le fait que le mot nature n'existe pas. Non pas qu'ils en sont abstraits, mais ils sont tellement intégrés dans la nature qu'ils n'ont pas besoin du mot nature, parce que pour eux c'est justement une mise à distance que nous on fait et qu'eux ne font pas. Donc moi j'étais assez intéressée par ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle Saint-Gère, par rapport au fait d'apprendre à voir, à observer. Et donc à devenir des êtres sensibles. Donc on pourra changer les lois à l'infini, mais je crois que ce qu'il faut peut-être changer d'abord, c'est notre regard et nos consciences, et apprendre peut-être aux générations futures à être davantage hommes et femmes de nature, hein, intégrés complètement dans cette nature, plutôt que de la mettre à distance avec... énormément de lois, parce qu'aujourd'hui on va protéger le lac Erie ou le fleuve Amazon, et puis demain il faudra protéger quoi, et on n'en finit pas. Donc il me semble que c'est plus les mentalités, les consciences qu'il faut changer plus que les lois.
Vous savez, à mon avis on peut dire vous avez raison, sauf que on peut dire, là aussi il y a interdépendance. Vous faites comme si l'un dépendait de l'autre. Moi, je dirais qu'il y a interdépendance. Si vous avez un enfant et que vous voyez ce qu'on fait de sa sensibilité à l'école, vous direz qu'il faut d'abord changer l'école. Vous voyez, nos sensibilités sont massacrées. Et ça, c'est institutionnel. Donc, voilà, on ne peut pas...
Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Donc, les deux sont interdépendants. Dans notre monde, où tout est chiffre et loi, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place pour la sensibilité ou même le sens commun. Et d'autre part, je voudrais vous signaler que le mot nature a été inventé en Grèce et il a été inventé pour les philosophes et sur un mode polémique. Il n'y a pas non plus de mot nature en Chine, alors que la Chine était, je veux dire aussi, assez urbaine. Non, c'était... Nature avait deux sens. La nature est... Comment dirais-je? Il n'y a pas de miracle. Donc les récits de miracles de Dieu, c'est bon pour le peuple. Et d'autre part, elle est régulière. Donc les récits de bizarreries apportés par les voyageurs sont à projeter, proscrire aussi. Donc, l'idée de nature, c'est pas une idée évidente, c'est une idée qui a été fabriquée et fabriquée politiquement. Et d'ailleurs, vous le savez, parce que dès qu'on dit c'est naturel, on sait que des tas que y arrivent.
Pour le c'est naturel, c'est bien. C'est pas un sophisme naturaliste, mais juste pour répondre, après je te passe le micro. On peut, malheureusement, on ne peut pas décréter comme ça, de, on change nos mentalités, on devient plus sensible, etc. Il faut. Il y a des. Bah, pas seulement, il y a aussi libérer des. Encore une fois, c'est ce que je disais en. À propos de la ZAD, qui, en défaisant la sphère économique, libère des espaces pour ça. C'est, et moi, je, de façon peut-être un tout petit peu pédante et plus technique, l'histoire de redevenir sensible, moi, je viens de la recherche en sciences cognitives, c'est des concepts qui me gênent un petit peu, c'est pour ça que j'utilise sujet-objet, ces deux modes de relation. C'est que quand la relation d'utilisation, effectivement, est relativement coupée des affects, et la relation sujet à sujet fonctionne avec, avec de l'empathie, etc., et on tient compte. Plus spontanément, c'est une relation plus bidirectionnelle où on tient compte de l'intérêt de l'autre. Et encore une fois, on peut basculer en une fraction de seconde de l'un à l'autre. Mais sauf qu'il faut, il faut avoir l'espace pour développer une relation de sujet à sujet. Un type qui travaille dans un abattoir, par exemple, est obligé de considérer les bêtes comme des objets. Sans ça, il devient dingue. Il ne peut pas avoir d'affect. Un dirigeant politique aujourd'hui est obligé de considérer l'humanité quasiment dans son ensemble comme des objets, ça aussi ça, et donc l'indépendance, et là aussi moi aussi évidemment je me réfère à Polanyi en disant ça, l'indépendance de la sphère économique verrouille la relation d'objet. On est obligé de rester dans une... J'ai entendu une citation il n'y a pas longtemps qu'on attribue à Einstein, je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas, qui dit tout ce qui se compte ne compte pas. Or, pour une sphère économique, tout ce qui ne se compte pas n'existe même pas. Donc, pour faire le lien avec ce que tu disais avant sur l'ennemi commun, ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où on identifie un ennemi commun et qu'on rentre dans une lutte un peu explicite et ouverte contre justement les garants de cette indépendance de la sphère économique, le reste se fait tout seul, quoi. C'est ça que je disais quand je disais que sur la ZAD, des gens qui n'avaient aucun intérêt pour les plantes et les animaux se mettent néanmoins à adopter spontanément, à les considérer spontanément comme des sujets. Et c'est fascinant dans tout un tas d'autres luttes, y compris dans une certaine mesure, même si c'est encore probablement naissant chez les Gilets jaunes, qu'une lutte qu'on a d'abord présentée comme absolument anti-écologique est en train, très très vite, via l'éducation, via la façon dont la lutte collective vraiment élève et éduque les gens, est en train de basculer complètement et de se réapproprier des questions écologiques d'une façon complètement neuve. On a vu ça dans le Val Susa en Italie, dans la lutte contre le TGV Lyon-Turin. Donc c'est la bonne nouvelle de l'histoire. C'est qu'à partir du moment où on va à l'affrontement, finalement, on devient
plus intelligent.
On se met spontanément à changer notre regard sur les non-humains, sans doute beaucoup plus efficacement que par ce qu'on appelle écologie plus classiquement, les petits gestes du quotidien, etc. Quoi.
Oui, je voulais juste c'est pas du tout, enfin, ça apparaîtra comme ça, mais je voulais pas défendre ma discipline, à savoir le droit, mais simplement cette opposition du droit au sensible. Lorsque je commence à fouiller finalement les manuscrits de l'ancien droit, on ne retrouve pas non plus la notion de nature, elle n'est pas employée. En revanche, on va retrouver la notion de génération future très souvent dans les archives historiques. Et puis on va retrouver aussi toute une multitude de termes, en fait, pour décrire des droits d'usage, comme on ne parlera pas du droit au bois, mais vous aurez le droit d'affouage qui va se distinguer du droit de marronnage, le droit de paquage qui va se distinguer du droit de panage. Enfin, je découvre une multitude de termes dont je ne connais pas l'essence et dont je suis sans cesse menée dans le dictionnaire. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que simplement, peut-être que même dans le droit, on peut retrouver des manières de se rapprocher de ce que vous appelez le sensible. Et je voulais juste peut-être répondre aussi sur la notion de service écologique. Est-ce qu'il faut vraiment tirer à boulet rouge dessus, ou est-ce qu'il ne faut pas tenter de se la réapproprier, de la réembrancher sur d'autres choses? Et c'est là ce que j'ai voulu faire aussi avec la notion de servitude, en fait. Les services écologiques, est-ce que ce ne sont pas justement une manière de... l'occasion de se réapproprier les servitudes, les services écologiques? Est-ce que ce n'est pas le service que nous rend la forêt en nous proposant du bois à prélever, du bois à couper, des herbes à faucher sous les bois? Enfin, est-ce qu'on ne peut pas de même que pour la confrontation écologique, et en ayant justement les travaux de Polanyi en tête, hein, se demander si les servitudes, enfin les services écologiques aujourd'hui, c'est pas, enfin, on ne devrait pas tenter d'en faire autre chose que ce qui nous est proposé pour l'heure.
Mais alors il faut les sortir de l'économie,
c'est ça. C'est les relier au social.
Les relier peut-être par le droit, mais changer le mot, le sens même du mot servir.
Mais c'est parce que, surtout qu'entre voisins, entre sujets, c'est normal de se rendre des services. Il n'y a rien de choquant dans l'idée là. C'est ce qui est inquiétant, c'est le côté dans le discours ordinaire, c'est le côté définitif. On a l'impression que si on ne justifie pas par un service écologique, alors ça n'a plus valeur. Le problème, encore une fois, en termes de cognitif, il y a deux façons. L'esprit mémorise deux types de valeurs, les valeurs intrinsèques et les valeurs utilitaires. Soit un autre humain est a priori crédité d'une valeur intrinsèque, tandis qu'un objet a une valeur utilitaire en vertu de ce qu'on en fait, quoi. Et un des problèmes de mettre en avant le caractère vraiment définitif de la notion de service, écologique dans beaucoup de discours sur la protection et la conservation aujourd'hui, c'est que quand on mémorise le fait que un milieu, par exemple, une plante, un animal, etc., n'a de valeur qu'en vertu des services qu'il nous rend, on sous-entend de la même façon nécessairement qu'il est remplaçable. Que si on trouvait un petit drone pas cher qui pollinisait aussi bien que les abeilles, on pourrait exterminer les abeilles, il n'y aurait plus de problème.
Le droit n'est pas dominé par l'équivalence. L'économie est dominée par l'équivalence. Combien ça vaut? Et si je refais une espèce d'écosystème ailleurs après avoir détruit celui-là, on est quitte.
Évidemment, c'est le problème, c'est-à-dire.
Juste pour reprendre donc, tout ce que vous dites, et donc. Les inquiétudes de Sugiaro, ainsi que l'archéologue du droit que nous avons et qui fait un travail très intéressant sur les bases que nous avons déjà sur le droit. Donc, le problème, c'est que nous sommes là actuellement dans une norme monolithe qui est le modèle actuel, qui est basé sur l'économie, basé sur l'intérêt, sur la production de ressources et la. Le fait d'en sortir du profit qui ne prend pas du tout en compte la terre sur laquelle on vit, qui ne prend pas du tout en compte à la base, comme nous l'a expliqué ce midi en histoire. Samir, voilà, ça a mis du temps, on a mis énormément de temps à nous rendre compte que, bah, ouais, on est en train de penser nos droits dans un mur. Le problème, c'est que, comme l'a dit Monsieur Diallo, nous sommes vraiment enchâssés, nous sommes prisonniers de ce monolithe qui est très complexe en soi, et nous n'avons rien appris d'autre, étant depuis enfant, parce que nous avons grandi dedans. Donc, tous ces mécanismes d'aller à l'école, aller acheter son pain, il ne faut pas que notre camarade ne voie notre banane, tout ça, c'est vraiment ancré dans notre psychologie, et le travail de prise de conscience ne peut être qu'un travail à long terme et massif, dans le sens où, pour le moment, le monolithe avance dans un sens. Il a une gigantesque inertie. Quelle force, par quel côté peut-on l'attaquer? Quelle force pourrait nous permettre de le faire dévier suffisamment pour qu'ensuite cette inertie également soit déviée, pour qu'on puisse avancer dans une direction un peu moins néfaste? Est-ce que ça serait le droit, et donc empêcher les grands groupes économiques à exploiter, surexploiter la terre et nous asservir par des envies qu'ils décrivent comme des besoins, etc. Est-ce que ça serait plutôt nous, de notre côté, de créer des nouveaux besoins pour obliger à avancer dans un autre sens, dans un sens plus écologique? Ou est-ce que ça serait vraiment à la population de se lever et de créer des ZAD qui, je ne sais pas si un jour il serait possible de les démarginaliser et d'en faire vraiment des territoires, par exemple en achetant simplement ce territoire.
Je vais dire quelque chose rapidement. J'aime bien le terme de monolithe. et d'inertie. Et par rapport aux questions qu'Isabelle a posées, je vous réinterpelle sur ce monolithe, il n'est pas seulement ici. Il a une réalité planétaire. Donc quand je vous développe les aides ici, quelle est la dimension de prise en charge, de la solidarité, de la mise en réseau, des savoirs, des énergies. Presque tout ce qu'on discute, c'est des... Parce qu'on regarde la sémiologie de ces termes, que ce soit celui de nature, que ce soit même l'invention du mouvement conservateur jusqu'au service écosystémique. C'est vraiment, il faut remonter aux romantiques américains, John Muir, tous ces gens-là, qui avaient ce concept de la nature comme cathédrale qui devait rester intouchée. Et c'est en pleine terre indienne, en plein génocide indien, que le mouvement moderne de la conservation s'est construit au 19e siècle. Lorsque vous regardez aujourd'hui, quand on regarde les questions de service, mais l'intérêt de la notion de monolithe, c'est que, à contrario, tout espace de liberté, de diversification devient intéressant. Voilà les services écosystémiques. Lorsque vous allez au ce que le Costa Rica a fait en matière avec la gestion de l'eau, même la ville de New York, c'est bon. Vous pouvez payer les gens à bien organiser, ils reçoivent un peu d'argent et de façon un peu plus. Ils gèrent l'eau à la source, ce qui fait que les gens peuvent économiser à l'échelle de toute une ville. Ils peuvent payer moins cher leur eau potable. Ils peuvent y accéder de façon plus large, plus facile. Mais à contrario, si vous voulez développer un marché du carbone complètement artificiel, totalement artificiel, une alliance des savants avec toute une série de gens qui se mettent ensemble pour créer une marchandise, une nouvelle marchandise virtuelle, pousser la frontière d'appropriation des gens. Ça, c'est autre chose. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ces questions-là qu'il faut poser. Et ça implique de prendre en charge cette question de la solidarité entre vous au nord et nous au sud. Comment la vivre de façon égalitaire, de façon créative, de façon intelligente, de façon innovatrice. Ça, tant que vous restez, tant qu'on reste comme ça, là, chacun dans son coin, on ne va pas s'en sortir. Le système va être très fort. Il est très fort. Et il est dans la manière de penser, il est dans les comportements, il est dans les habitudes, dans la vision du monde. Dans l'indifférence qui se crée lorsque vous rencontrez bon.
Bravo. Merci.
Moi je suis sensible à ce que tu viens de dire, mais en même temps, je pense qu'il faut se méfier de la notion de monolithe pour une raison essentielle, c'est que si on revient, par exemple, à Marx, qui a quand même été un peu utile, justement, pour essayer de penser la lutte contre le capitalisme, le grand travail de l'enquête pour Marx, c'était de déceler toutes les contradictions de ce qui, justement, cessait d'être un monolithe. Donc si on part du principe que c'est un monolithe et qu'il est immuable et qu'il est... Il est marqué par l'inertie. En fait, on ne se donne pas les moyens de voir les contradictions et donc les points stratégiques par lesquels on peut entrer en lui et donc lutter contre lui. Et donc, il me semble que, je ne sais pas comment dire, mais que ce que tu proposes sur le droit, c'est justement d'essayer de voir comment est-ce que, dans les textes même de droit, il existe des interstices dans lesquels on peut se nicher pour retourner la logique du droit contre elle-même. Mmh. Et ça, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que, dès le XVIe siècle, parce que c'est ma marotte, hein, dès le XVIe siècle en Amérique, il y a des Indiens et des Indiennes qui, effectivement, c'était pas les plus pauvres, mais ils ont pris les ressources du droit pour lutter contre l'asservissement qu'ils et elles subissaient. Donc, enfin, je pense que d'ailleurs, quand je disais qu'il y avait des zadistes qui étaient contre le droit, en fait, ils sont plus, je dirais plus précisément, qui sont contre la loi. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais même en étant contre la loi, on peut jouer contre la loi, avec la loi. Et donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire un peu pédant, la dialectique, et je pense qu'il faut aussi le faire avec les outils d'économie. Et c'est, en fait, l'idée c'est, si on veut réencapsuler l'économie dans quelque chose de plus large, alors il va quand même falloir manipuler des outils économiques. Il va quand même falloir un peu, éventuellement, vendre des choses, en faisant en sorte peut-être de ne pas tirer des profits indus, etc. Mais c'est aussi, à partir de cette puissance que peut donner l'économie, organiser quelque chose qui lui soit hostile. Et je pense que, pour revenir aux Gilets jaunes qui sont extrêmement intéressants, tu disais, on l'a vu comme une lutte anti-écologique, et ce qui se profile, c'est la possibilité, mais c'est une possibilité, donc elle implique c'est le contraire, évidemment, mais c'est la possibilité que cette lutte anti-écologique devienne finalement une lutte anti-économique. Et ça passe par le fait de considérer que, en réalité, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat est encore une soumission au pouvoir. C'est donc de comprendre que les contraintes économiques, comme le droit, c'est une formalisation des contraintes. Et l'économie, c'est même pas une formalisation des contraintes, c'est une inscription concrètes des contraintes dans l'organisme. Et donc à partir du moment où on pense ça, on pense que le pouvoir d'achat c'est un problème, eh bien, il y a la possibilité de retourner cette question et je vais revenir à ce que tu viens de dire, c'est pour justement cesser de vouloir s'enrichir. Parce que tu as dit, on va s'enrichir, etc., mais c'est peut-être ça le problème. Et il va falloir montrer de manière très très sensible, que s'enrichir, ça ne veut pas forcément dire vivre mieux. Je crois que c'est la grande leçon de la journée.
Et là, on a dépassé un petit peu le temps. Il y a une dernière question de quelqu'un qui voulait poser il y a longtemps déjà, qui est très courte. Donc, je lui passe le micro.
Vivre mieux, ça dépend de ce qu'on appelle vivre mieux aussi.
Oui,
c'est
la définition.
J'ai trouvé ça hyper passionnant, notamment sur la relation, ce que disait Chimère tout à l'heure sur le droit. Le fait qu'ici, en tout cas en France, on est vraiment crispé sur ensemble des périphéries de droit qu'on voit. Moi, je ne suis pas du tout juriste, mais j'ai dû gérer des trucs de droit, notamment dans le numérique, depuis assez longtemps. Et je me rends compte que plus je me vois dans le droit, comment il est construit, comment il fonctionne, comment il s'impose à nous, plus je me rends compte qu'il est complètement pété. C'est-à-dire qu'il ne sert que les pouvoirs en place, que ceux qui finalement l'écrivent et l'écrivent pour eux. Et donc, quand vous disiez qu'on n'est pas dans le droit, oui, je trouve qu'on est complètement crispé. Je trouve ça intéressant, l'histoire de la ZAD, mais on voit que même là, ils sont en train d'essayer de reprendre le droit pour justifier leur présence sur place, ils galèrent, finalement, ils vont galérer, et peut-être que finalement, ça va à la fin, ils risquent de perdre ça. Et donc la question que je me pose, et que je vous pose à tous, quelque part, et surtout à madame, c'est quoi les outils pour changer le droit? Parce que finalement, s'il est extrêmement épais, extrêmement complexe, et qu'il nous empêche d'avoir cette meilleure relation avec la nature, et qu'il nous empêche d'avoir cette relation que vous décrivez, que moi je trouve extrêmement intéressante, de droit à différentes échelles, mais avec des importances très fortes, du local, et des ancêtres et des suivants, et c'est pour ça qu'on ne va pas prendre la terre, je trouve ça génial. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'on a des... Comment on arrive à soit ça sert de droit, soit à le changer, finalement?
Merci beaucoup, moi je vais être rapide, mais dans la même foulée, hein, je pense que vraiment j'apprécie beaucoup ce truc. Je pense, Samir, tu as raison, mais le monolithe, c'est ça, c'est-à-dire un rapport entre cet aspect. C'est pas que c'est un monolithe, il y a les tentatives, tu montres très bien, en rentrant dans le droit, découvrant notre outil, il y a toujours des interstices, c'est jamais total, c'est jamais absolu, mais l'intention est absolue. La structure, la détermination, l'élément de téléologie qu'il y a dans la construction du droit, c'est intentionnellement hégémonique. Et c'est ce qu'on retrouve en économie. C'est pour ça qu'il va être très difficile d'utiliser les instruments de cette économie pour développer une véritable, construire des véritables explorations. Il faut réinventer l'économie. Moi, j'ai travaillé sur les systèmes d'altérité en économie. J'ai travaillé systématiquement. J'ai regardé les modèles mathématiques de ces gens-là, etc. Ils construisent, ils regardent quelque chose comme le système de rémunération à la part dans la pêche, le VTH, tout ça. Ils regardent ça, que soit d'ailleurs les marxistes ont fait la même chose que les néoclassiques. Ils regardent ça pour expliquer ce qu'ils ne connaissent pas avec ce qu'ils savent. Ils transforment, ils créent des tautologies. Ils prennent un objet, ils le changent dans quelque chose qu'ils maîtrisent. Il le jette dedans et ça y est, tout est réglé. C'est un processus, il est là, il est perversible, il est total. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez des domaines, là, les services sur les écosystèmes, c'est vrai, c'est légitime. Mais ça apparaît à un moment donné où la question c'est de dire comment, au lieu de remettre en cause la manière dont la conservation s'est construite, on va maintenant utiliser les instruments de l'économie là pour mettre toute la nature des gens dans quelque chose qui peut être échangeable, etc. Et ça va au mieux de façon tôt ou tard. Mais je pense que c'est les espaces de liberté qu'il faut utiliser. Il faut les questionner dans le fond, dans la manière dont un banc construit ses objets épistémologiques et sémiologiques. Qu'est-ce qui marche? Quels sont les jeux de logique qui sont produits qui rentrent dans nos têtes?
Je laisse Sarah répondre. Il faut vraiment qu'on laisse la salle. Et qu'on finisse très très vite.
Comment faire avec le droit? Il y a peut-être déjà une lutte contre le droit au sens où ce serait de la désobéissance civile, une manière de se réapproprier la notion de droit naturel. Il y a aussi une lutte institutionnelle qui est la lutte que sont obligés de mener les zadistes, qui est une lutte administrative, institutionnelle, très complexe. Effectivement, on n'est pas du tout sûr de... Ils ne sont pas du tout sûrs de gagner à terme, ou alors sans doute pas après la première décision de justice, il en faudra sans doute d'autres. Et puis il y a une lutte qui est peut-être plus notionnelle ou culturelle, qui consiste à tout simplement à lire autrement nos dispositions légales, c'est-à-dire les textes de loi, qu'on ne le fait habituellement et que ne le font les juges habituellement, donc leur proposer de lire autrement les textes, et notamment le faire à la lumière de textes qui ont une valeur supérieure à la loi, par exemple la charte de l'environnement en France qui a valeur constitutionnelle, ou alors la convention sur la diversité biologique qui a été mentionnée tout à l'heure de 1992 et qui a priori sont très favorables à la fois aux générations futures et aux droits aussi des peuples autochtones et des communautés locales. Donc proposer d'autres lectures des textes de droit.
Ben, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.
Et Chimère, c'est quand même un sacré prénom. Mec, ça s'appelle Chimère, quand même, c'est trop stylé. Non Chimère, ça fait
Chimère. Chimère. C'est une exposition des mondes qui est parue au Seuil dans la collection Anthropocène, dirigée par Christophe Bonnet, qui est une excellente collection.